Au bout du chemin et au bout de ma course, il y avait l'entrée du camp. Un grand portail en fer forgé, joliment ouvragé, comme le portail d'un parc de loisirs ou d'un jardin d'agrément. De part et d'autre, se dressaient deux guérites peintes de rose et de vert pimpant dans lesquelles des gardes se tenaient droits et raides. Et au-dessus du portail, il y avait un gros crochet, brillant, semblable à un crochet de boucherie auquel on suspend des bœufs entiers. Un homme s'y balançait, mains liées dans le dos, une corde au cou, les yeux grands ouverts et sortis des orbites, la langue épaisse, gonflée, tendue hors des lèvres, un pauvre gars qui nous ressemblait comme un frère, et dont le maigre poitrail s'ornait d'une pancarte sur laquelle était écrit, dans leur langue, la langue des Fratergues Krem, qui avait été jadis le double de notre dialecte, sa sœur jumelle. Ich bin nicht. Je ne suis rien. Le vent le faisait bouger un peu. Trois corneilles patientaient non loin de lui, guettant ses yeux comme des friandises. Tous les jours, un homme était ainsi pendu à l'entrée du camp. Chacun, le matin, en se réveillant, se disait que ce serait peut-être son tour. Les gardes nous sortaient des cabanes où nous nous entassions, à même le sol pour la nuit, nous faisaient mettre en rang, et nous attendions, ainsi, debout, longtemps. Quel que soit le temps, nous attendions qu'ils choisissent l'un d'entre nous, la victime du jour. Parfois, c'était décidé en 3 secondes, d'autres fois, ils nous jouaient au dé ou aux cartes. Et nous devions attendre debout près d'eux, en rang parfait, immobile. Les parties s'éternisaient, et au bout du compte, le vainqueur avait le privilège de faire son choix. Il passait dans les rangs, nous retenions notre souffle, chacun tentait de se rendre le plus insignifiant possible, le garde prenait son temps. Puis il finissait par s'arrêter devant un prisonnier. Le touchait du bout de son bâton et disait simplement « D'où ?» Nous autres, tous les autres, au fond de nous, on sentait naître une joie folle, un bonheur laid et qui ne durerait que jusqu'au lendemain, jusqu'à la nouvelle cérémonie, mais qui permettrait de tenir encore. Le doux partait avec les gardes, il allait jusqu'au portail, on le faisait monter jusqu'au crochet, on lui faisait dépendre le pendu de la veille et ensuite le descendre sur son dos, creuser une fosse et l'enterrer. Puis les gardiens lui faisaient enfiler le panneau « Ich bin nicht ». Lui passait la corde, le faisait monter en haut de l'escabeau et attendait que la Zeilenessenis arrive. Die Zeilenessenis, c'était la femme du directeur du camp. Elle était jeune et surtout, elle était d'une inhumaine beauté, faite d'un excès de blondeur et de blancheur. Elle se promenait souvent dans le camp. Nous avions ordre, sous peine de mort, de ne pas croiser son regard. La Zeilenessenis ne manquait jamais la pendaison du matin. Elle arrivait lentement, fraîche, les joues encore rosies par l'eau pure, le savon, la crème, et le vent parfois nous apportait son parfum, un parfum de glycine. Et je ne peux plus depuis lors sentir cette odeur de glycine sans vomir et sans pleurer. Elle avait des habits propres. Elle était impeccablement coiffée, vêtue. Et nous, à quelques mètres, mangés de vermine dans nos haillons qui n'avaient plus ni forme ni couleur, la peau crasseuse et puante, les crânes rasés et croûteux avec nos os qui tentaient de nous trouer de toutes parts, nous appartenions à un autre monde que le sien. Elle ne venait jamais seule. Toujours elle portait dans ses bras son enfant. Un nourrisson de quelques mois enrubanné de joli linge. Elle le berçait calmement, lui parlait à l'oreille, lui fredonnait des airs de comptine. L'une, je m'en souviens, disait « Felt, felt von Licht, mans hange auf all recht. Felt, felt von Licht, o mein kinder so fett stillest. » Monde, monde de lumière, la main des hommes sur toute chose. Monde, monde de lumière, Ô mon enfant, si doux, repose. » L'enfant était toujours calme. Il ne pleurait pas. Parfois il dormait. Mais avec de petits gestes très tendres, elle le réveillait et lorsqu'il finissait par ouvrir les yeux, gigotait avec ses petits bras et ses petites cuisses, bâillait au ciel. Alors d'un simple geste du menton, elle signifiait aux gardes que la cérémonie pouvait commencer. L'un d'entre eux lançait un grand coup de pied dans l'escabeau et le corps du doux chutait, vite retenu par la corde. Atsailen et Sénis le regardaient quelques minutes, et sur ses lèvres venait alors un sourire. Elle ne perdait rien des tressautements, des bruits de gorge, des pieds lancés dans le vide à la recherche du sol, des bruits goitreux des intestins qui se vidaient, de l'immobilité enfin, du grand silence. Elle posait alors un long baiser sur le front de son enfant, qui parfois pleurait un peu, moins de peur sans doute que parce qu'il avait faim et réclamait sa tétée, et s'en allait calmement. Les trois corneilles prenaient leur place. Je ne sais pas si c'était les mêmes chaque jour, elles se ressemblaient tant. Les gardiens aussi se ressemblaient tous, mais eux ne mangeaient pas les yeux. Ils se contentaient de nos vies, comme elle, comme la femme du directeur, celle qu'entre nous nous avions surnommée la Tsailen et Sinis. Dit Silent Nessinis, la mangeuse d'âme.